toujours au bord de la panique. Elle sait qu'il rougit sans doute, mais que la faible luminosité de la yourte le protège. Il essaie de donner le change, mais ce n'est pas à Toctogul qu'il s'adresse, en français, la voix hésitante, tremblante, faussement enjouée, mais à sa mère. Et ses regards sont à la fois comme des appels au secours, des cris d'angoisse. Il voudrait ne pas être là, il voudrait qu'on ne le voie pas. Et pourtant, en même temps, il est fier de ce qu'on dit de lui, heureux et mal à l'aise. Il se demande pourquoi il est toujours comme ça. Il répond qu'il aimerait bien faire ça un jour, pourquoi pas. Ça doit être bien comme jeu, dit-il. Et puis on lui resserre une tasse de koumis, et il ne sait plus si ses joues sont rouges par timidité ou brûlantes parce qu'il est déjà saoul. Il n'a d'ailleurs pas le temps de se poser la question plus longtemps, ni celle-ci ni une autre. Dehors, on entend des voix, des chevaux et une agitation, des rires. Et puis quelqu'un entre, les deux jeunes qui sont venus au-devant de Sibyl et Samuel tout à l'heure, et qui reviennent, encore plus heureux et excités. Ils échangent trois mots avec Toctogul, celui-ci se lève, on a de nouveaux invités. Dans l'embrasure de la porte, Sibyl et Samuel les reconnaissent tout de suite. Stéphane et Arnaud sont à peine surpris de les retrouver ici. Les voyageurs qui se retrouvent par hasard, alors qu'ils ne se sont rencontrés qu'une seule fois, donnent l'impression de se connaître depuis toujours. Après les premières secondes d'étonnement, on s'embrasse, on rit, on en rajoute dans la joie, dans l'idée qu'on avait bien dit qu'on se retrouverait. « Oui, j'en étais sûr !» s'exclama Arnaud dans un grand sourire. Et si le sourire s'adresse tout de suite à Sibyl, Arnaud n'est pas en reste avec Samuel. Stéphane raconte qu'ils se sont perdus sur la route, qu'ils ont eu du mal à se retrouver, et puis, finalement, conclut-il, nous voilà. Sibyl et Samuel ne racontent pas leurs mésaventures des marécages. Pour l'instant, ils écoutent. Stéphane et Arnaud parlent, et puis Toctogul, et puis on sort des bouteilles de vodka d'un coffre, deux bouteilles et des verres qui n'ont rien à voir avec des verres à digestif, presque des verres à eau. On les remplit, et Sibyl et Samuel se regardent, et s'effraient un peu, mais ils ne disent rien, prennent les verres et trinquent avec les autres. On trinque aux nomades. Et après ce verre, on trinquera aux voyageurs qui viennent de si loin. Et puis après, on trinquera aux chevaux sans qui la vie ne serait pas aussi belle. Et puis on trinquera encore en espérant que la pluie vienne bientôt pour nourrir la terre qui en a bien besoin. Et puis on trinquera aux yourtes. On trinquera au mariage de la fille de Toctogul et aux enfants qu'elle aura. Et puis à la vie, à l'amour. On trinquera à Dieu qui permet tout ça. On trinquera sans plus savoir à quoi ni à qui l'on trinque pourvu qu'on trouve encore de quoi lever son verre et envoyer dans le gosier sa dose de brûlure. Et lorsqu'elle veut expliquer qu'en France on boit la vodka dans des verres grands comme des dés à coudre, Sibyl déclenche une avalanche de rires. Et une autre encore lorsqu'elle explique on en boit un verre ou deux, peut-être trois, quatre c'est beaucoup. « Ah bon ?» s'étouffe Manas. « Oui, » confirme Stéphane. Arnaud rit aussi. « Oui, » et Toctogul qui ne veut pas croire que ce soit possible de boire dans des verres grands comme des dés à coudre. C'est-à-dire qu'on parle plutôt de verres gros comme une main de bébé. Des verres qu'on pourrait gober comme un œuf. Non. Ça, ici, on refuse d'y croire. Les Kirghizes partent dans des rires qui manquent de les étouffer, et l'alcool brille dans leurs yeux. Cet alcool qui réchauffe tout ce qui brûle, qui les tue les uns après les autres. Parce qu'il y a aussi ça, on sait que les hommes d'ici ne dépassent pas souvent 60 ans. Et quand Arnaud raconte ça en français, c'est Sibyl la première qui éclate de rire, et puis Stéphane, et puis Samuel qui n'en revient pas que sa mère puisse rire d'un truc aussi grave. Samuel qui balance des dégueulasses. « Maman, c'est dégueulasse de rire de ça !» Et elle qui répond en s'essuyant les yeux, n'en pouvant plus de rire. « Oui, mon chéri, oui, c'est dégueulasse, c'est affreux, qu'est-ce que tu veux, je peux plus m'arrêter de rire !» On se calmera un peu en dînant. Un repas consistant comme le voulait Sibyl. De la viande d'agneau, des pâtes, du pain et puis des boulettes de fromage. Le tout servi avec encore de l'alcool. Et chacun des duos, Stéphane et Arnaud d'un côté, Sibyl et Samuel de l'autre, peut reconnaître en ceux qui lui font face, à leur façon de manger, un écho de sa propre faim, des bouches avides, des ventres qui se remplissent et les sourires de contentement qui se dessinent sur les visages, pour la plus grande joie des Kirghizes. Kalima veille à ce que personne ne manque de rien. La nourriture qui disparaît de la table est aussitôt remplacée. Les plats se vident, se remplissent, une suite sans fin. La table ne se vide jamais. La nourriture ne manque jamais. Les verres se remplissent. Se vident, se remplissent aussitôt, se vident encore et déjà sont pleins à nouveau et l'alcool allume les yeux, brûle les gorges, rougit les joues, réchauffe les corps, tourne les têtes et les voix qui s'étaient tues pendant qu'on mangeait deviennent soudain plus bruyantes. Au fur et à mesure que la mastication se fait plus lente, c'est le débit des voix qui se fait plus rapide, plus haut.